Nous allons lire dans le livre de dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 12, à partir du verset 13. Évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous lisons dans Marc 10, 38 à 42. Marc 10, 38 Excusez-moi, Luc 10 plutôt, toujours le livre de Luc. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté. » Nous allons lire encore d'autres textes, mais pour ne pas perdre le contenu de ces textes, je vais dire quelques mots. C'est que cet homme-là avait amassé beaucoup de biens et il s'est dit, j'ai atteint l'objectif de ma vie. Donc j'ai beaucoup de richesses, je peux jouir de la vie comme je veux sans travailler, être dans une sorte de repos réjouissant. Mais un élément lui manquait, c'est que pour se réjouir de la vie, pour manger, pour courir, il faut avoir cette vie. Parce que si tu ne l'as pas, si tu es mort, même si tu es riche, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Donc cet homme avait pensé avoir trouvé la solution pour la vie. Et nous tous, tels que nous sommes là, nous cherchons une solution pour notre vie. Il y en a qui cherchent par le travail. D'autres cherchent par en utilisant, en mettant en valeur certains talents qu'ils ont, comme ceux qui courent les 100 mètres, qui font la natation. Il y en a aussi, c'est par la musique. D'autres, dans la religion. Mais nous sommes tous en quête de quelque chose. On est en quête d'une solution pour notre vie. Beaucoup se trompent, mais tout le monde cherche. Il y en a qui cherchent par les études, avoir les plus grands diplômes. Ils ont comme une conviction que quand ils auront ces diplômes, ils auront le meilleur emploi. Et à travers cela, ils ont comme une sorte de solution. Leur raisonnement est faux, mais cependant, ils cherchent quand même. Cet homme, lui, pensait avoir trouvé. Il a cherché, il a travaillé, il a amassé des biens. Mais ce jour-là, il pensait avoir trouvé. Ça y est, j'ai trouvé la clé de mon bonheur, la clé du bonheur. J'ai suffisamment de biens pour vivre sans travailler toute ma vie. Et Dieu va lui rappeler qu'il n'avait pas trouvé la clé. Parce que la clé reste quand même la vie. Si tu n'as pas la vie, tu es bloqué. Donc cet homme-là avait toutes les richesses qu'il pouvait dépenser, comme on dit, en trois vies ou deux vies, mais il n'avait pas la vie, puisque Dieu l'a retiré. C'est ça, bien-aimé. La réalité. Nous cherchons tous un bonheur. Nous cherchons une solution. Mais le plus grave, c'est que la plupart des gens loupent la solution. La solution, c'est la vie. S'approcher de celui qui donne la vie. D'ailleurs, dans un des textes de la Bible, Jésus dit une chose. Ne craignez pas celui qui peut vous tuer physiquement, mais il ne peut rien faire à votre vie, à votre âme. Parce que lorsqu'on meurt, ça ne se termine pas là. Il y a une continuité. Craignez plutôt celui qui peut vous tuer physiquement et vous amener votre âme en enfer. Donc, quelque part, lorsque quelqu'un se dit « j'ai la plus belle maison, j'ai de l'argent, je peux vivre, il a 50 ans, je peux vivre sans jamais travailler, sans plus jamais travailler. » Cette personne a comme une certaine image d'éternité dans le bonheur. Il est dans une sorte de rêve d'éternité. Il a l'impression que sa force demeurera, ses richesses demeureront, et tous nous sommes dans une quête, dans une recherche d'une solution qui sera la solution pour l'éternité. Et il y en a pour éviter d'être confronté à l'éternité. Ils préfèrent dire quand nous mourrons, c'est fini, c'est le néant. Ils trouvent ainsi la solution imaginaire au destin éternel. Ils disent, quand nous allons mourir de toute façon, on ne va plus exister. Donc, autant en profiter sur cette terre pendant que nous sommes vivants et profiter à fond. Mais le problème, c'est que quand ils meurent, ils se rendent compte que ce n'est pas fini. Il y a une autre vie, la vie de l'âme. Et lorsqu'on ne s'est pas préparé par rapport à cette vie de l'âme, on se retrouve en enfer. Et quand ils étaient sur terre, ils sentaient cela. Ils sentaient que ça ne s'arrête pas à la mort. Mais ils ont voulu trouver cette solution, la solution à cette sensation qui freinait leurs élans. Parce que penser qu'il y a une autre vie, penser qu'il y a un jugement, ça te pousse à réfléchir comment gérer ta vie. Alors certains ne veulent pas réfléchir, ils veulent se lâcher. Ils veulent se lâcher dans l'alcool, ils veulent se lâcher dans la prostitution, ils veulent se lâcher. Ils veulent se lâcher dans la rébellion au Créateur. Alors, ils se disent, la solution c'est que Dieu n'existe pas et quand on meurt, c'est fini. Mais ça, c'est toi qui écris sur ta copie. Mais est-ce que le professeur a dit que ta solution est bonne? Nous, quand on faisait les maths, il fallait démontrer des théorèmes. Tu vas faire deux pages et tu écris à la fin, c'est ce qu'il fallait démontrer. Mais est-ce que c'est fini là? Ce n'est pas fini. On attend les notes. Quand les notes vont revenir, quand elles vont être affichées, on saura qui a vraiment démontré. Tout le monde a écrit. Tout le monde pense avoir démontré. Mais le professeur va dire, non, là, c'est faux. Ta solution n'est pas bonne. Donc chacun pense avoir trouvé sa solution. Et il y en a qui n'ont pas encore trouvé, qui sont à la recherche. Mais ce qu'ils cherchent en réalité, c'est quoi? C'est le bonheur. nous cherchons tous le bonheur. Mais quel bonheur nous cherchons? Un bonheur éternel. Personne ne veut que le bonheur lui échappe. Je me souviens un jour, on était dans le jardin d'une bien-aimée. C'était à 14 heures. L'après-midi, le climat était tellement beau. Et 17 heures est vite arrivé, quoi. Et j'ai dit, voilà comment le bonheur nous échappe. On ne peut pas le maîtriser. Et c'est ça la réalité. J'aurais bien voulu que ces 14 heures-là restent comme ça. Mais qui peut arrêter le temps? Seul Dieu peut arrêter le temps. Voilà nos limites. On est à la recherche. Il y en a qui économisent 10 000 euros pour aller pendant les vacances d'été au Sri Lanka, à Tahiti, en Martinique. Mais tôt ou tard, les vacances finissent. Tu es obligé de revenir, retrouver notre automne et nos hivers. Obligé de mettre des manteaux et des moufles. Parce que personne ne peut arrêter le temps. Le bonheur, personne ne peut le maîtriser. Et plus encore, le bonheur éternel, ça nous échappe. Mais tous, on est à la recherche. Et cet homme a cherché à travers les biens, mais sa solution était mauvaise. Parce qu'à la fin, il a laissé tous ses biens et il est resté seul. Mort. La femme dont il est question dans Luc 10, Marthe et Marie, ils ont reçu Jésus-Christ chez eux. Marthe cherchait quoi? L'approbation du maître Jésus. Certains cherchent à travers la religion le bonheur. Ils cherchent, mais dans leur logique à eux. Ils ne cherchent pas selon la logique de Dieu. Et Marthe, qu'est-ce qu'il faisait? Elle faisait plutôt divers travaux. La salade, les tomates, les jus, la crème, pour satisfaire Jésus. Et Marie, la petite sœur de Marthe, elle était au pied de Jésus en train d'écouter. Quand Marthe est en train de faire la crème, la salade, le poulet rôti, le but c'est quoi? Le but c'est toucher le cœur du Fils de Dieu. Est-ce que ça s'arrête là le but? Quand tu as touché son cœur, le but c'est quoi? Il y a un retour. Donc il va s'occuper de toi. Il va te protéger. Il va te bénir. À l'époque, les gens disaient, il faut recevoir les prophètes comme il faut. Donc, quand le prophète va sortir de la maison, il va libérer, comme on dit à notre époque, une parole de bénédiction. Jésus dit à Marthe, oh, mais comment tu fais tous ces efforts pour m'avoir alors que moi je suis déjà là? Profites-en! Parce que tout ce que tu fais là, c'est pour m'avoir, moi. Mais moi, je suis déjà là. Donc, Marthe cherchait le bonheur dans une religion liée aux œuvres. Je vais faire ceci, Dieu sera content. Je vais faire cela, Dieu sera content. Je vais satisfaire Dieu en faisant ceci ou cela. Mais Dieu lui dit, oh, mais pourquoi tu fais tous ces efforts alors que tu m'as déjà eu? Bien-aimé, tu as déjà eu ce que tu voulais. Jésus est dans ta maison. Qu'est-ce que tu cherches encore? Et c'est ce que nous allons voir. Tous nous cherchons, mais ce que nous cherchons n'est pas loin de nous, c'est près de nous. Nous lisons encore quelques textes. Nous lisons dans Luc au chapitre 19. Luc chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène lui à Jérusalem. Les partisans de la nouvelle doctrine, à l'époque donc, c'est les chrétiens, puisque c'était des juifs et ils ont cru en Jésus comme étant le Messie. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de me résister. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Amen. Là, nous avons encore 2 textes. Il y a Zachée, un homme riche, collecteur d'impôts, et on peut supposer qu'il devait aussi exploiter les gens, il devait surtaxer les gens, et c'est ce qui l'avait rendu aussi très riche. Un homme mal vu, mais très riche. Vous savez, les gens qui sont très riches, ils sont à la fois mal vus et bien vus. Donc, ils sont mal vus quand ils sont loin de nous, mais quand ils s'approchent, ils sont bien vus parce qu'on veut profiter de leur argent. Donc, c'était ça qui était Zachée. Il avait beaucoup d'argent, il était très riche, mais il savait que les gens ne l'aimaient pas. Mais en même temps, ces mêmes gens-là, quand ils vont s'approcher d'eux, ils vont changer de langage. Mais ce n'est pas toujours le bonheur de savoir qu'on n'est pas aimé, même si on est très riche. Ce n'est pas toujours la joie de faire souffrir les autres. Et Zachée était en quête. Il était en quête du bonheur. Il était en quête d'une solution pour sa vie. Bien-aimé, même si tu ne le sais pas, tu es en quête. Tu recherches le bonheur. Tu crois que peut-être en te mariant, c'est là que tu auras le bonheur. Mais tu es dans la recherche. Tout homme cherche la solution pour la vie. L'homme a comme un manque. Il lui manque quelque chose qui puisse l'apaiser une fois pour toutes. Parfois, il peut être dans des joies, mais parfois, dans ces joies-là, il est inquiet. Parce qu'il se dit, après ce moment, je serai quoi? Et l'homme est à la recherche de quelque chose qui va le sécuriser, qui va le satisfaire une fois pour toutes. Pas seulement un moment. Il y en a qui ont la folie de chercher même des satisfactions d'un moment. Mais l'homme en lui, dans son fort intérieur, cherche une satisfaction, une maîtrise des événements éternels. Zachée croyait trouver cela dans l'argent. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Même quand les gens te détestent, tu as de l'impact sur eux. Parce que tu as le pouvoir. Mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le bonheur. Il pouvait avoir l'argent, il pouvait avoir le pouvoir, il n'avait pas le bonheur. Et lorsqu'il a vu Jésus-Christ passer, il s'est dit, celui-ci est le Fils de Dieu. Tout ce que j'ai cherché jusqu'à aujourd'hui, j'ai cherché l'argent, par l'argent le bonheur, j'ai cherché par le pouvoir le bonheur, je sens que je n'ai pas ces choses-là. Jésus-Christ peut me donner puisqu'il est Fils de Dieu. Et Zachée regardait Jésus avec envie, mais il était sur un arbre. Et Jésus-Christ qui passait, l'appelle, l'interpelle, Zachée. Zachée n'y croyait pas. Comment il connaît mon nom? Et Jésus lui dit, je connais tous les humains. Je connais. Je veux manger aujourd'hui chez toi. Zachée, super étonné. Qui? Le maître, le Fils de Dieu, vouloir manger chez moi? L'homme détesté par la population. Jésus-Christ connaît les cœurs. Il y a des gens qui ont une apparence de bonté et de piété, mais Dieu connaît les cœurs. Il y a des gens qui ont des apparences de méchanceté, mais Dieu connaît les cœurs. Et quand Jésus a vu Zachée, il savait que c'était quelqu'un qui était dans la recherche. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu résiste aux orgueilleux. Les gens qui pensent qu'ils ont déjà trouvé, Dieu va leur résister. Ils se rendront compte qu'ils se trompent, bien-aimés. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Zachée a eu l'humilité de monter sur l'arbre pour voir Jésus. Et son humilité a été récompensée. Jésus a dit, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Et quand Zachée se voit attribuer une telle faveur, il dit non, ce n'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre Jésus. Dieu a bien voulu s'intéresser à moi, moi le mauvais. Il est vraiment le véritable Dieu. Et Zachée change de vie. Il comprend que le vrai bonheur se trouve dans Jésus. Nous lisons, nous avons lu dans Actes des Apôtres le texte de Paul. Saul, c'était quelqu'un qui était de la famille des prêtres au milieu des Juifs. Et quand Jésus est venu, les prêtres sentant leur pouvoir menacé, ils ont considéré Jésus comme un adversaire au lieu de le considérer comme le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur d'Israël. Ils se sont dit, si nous, on accepte Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu, nous sommes obligés de démissionner, c'est-à-dire que Jésus aura le dessus sur nous. Il sera notre chef. Donc on n'aura plus les mêmes avantages. On n'aura plus les mêmes pouvoirs qu'on a sur la population et sur les Romains. Non, nous allons lui résister. En connaissance de cause, ils ont résisté à Jésus, pour la plupart, en connaissance des causes. Et ils ont combattu Jésus. Et quand Jésus est mort et ressuscité, il est parti au ciel, ses disciples ont continué le travail de vouloir de sauver l'humanité en commençant par le peuple juif. Et les prêtres ont redoublé d'intensité, de dureté pour combattre les serviteurs de Jésus. et ils ont utilisé un certain Saul, qui était très zélé pour la religion juive. Saul était en quête de Dieu. Il cherchait Dieu. Et il pensait que plus il ferait souffrir les chrétiens, plus il ferait plaisir à son Dieu. Il est emprisonné. Il est frappé. Et quand il a trouvé qu'il avait suffisamment fait dans Jérusalem et autour de Jérusalem, il a demandé des lettres d'affectation, de permission auprès des prêtres pour aller suivre les chrétiens jusqu'en Syrie, à Damas, loin de chez lui. Il a dit, je vais aller les suivre jusque là-bas, les arrêter et les amener liés à Jérusalem. Parce que dans sa tête, il se disait, tout ce que je fais là, Dieu prend plaisir à ça. Et on se dit, quand Dieu prend plaisir, forcément il y a un retour. Si Dieu prend plaisir, je serai béni. Si Dieu prend plaisir, je serai protégé. Si Dieu prend plaisir, il me donnera de la richesse. Paul croyait faire plaisir à Dieu en faisant souffrir les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il y a une grande lumière qui vient sur lui et il tombe. Il pose la question à la lumière, « Qui es-tu ?» La lumière lui dit, « Je suis Jésus que tu es en train de combattre. » Lorsque tu frappes les chrétiens, tu es en train de me combattre, moi. Je suis le Seigneur. Et Paul, devant cette vision, devant cette manifestation, il est obligé d'admettre qu'il est en face de Dieu. D'ailleurs, lui-même l'appelle Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il admet que ça, c'est notre Dieu qui me parle. Et donc, il s'est dit, donc notre Dieu, c'est finalement lui, alors. C'est son fils, Jésus. Je me suis trompé pendant tout ce temps. Mais notre Dieu est bon. Il sait qu'on cherche. Et il vient à nous. Ma prédication est la suivante. Ce que tu cherches, ce dont tu as besoin, c'est vraiment Jésus-Christ. On cherche des choses. Mais en réalité, nous cherchons un bonheur éternel. Un bonheur que nous maîtrisons. Mais en réalité aussi, ce bonheur se trouve en Jésus. Ce que nous cherchons sans le savoir, parfois, c'est Jésus. Et il est à côté, mais nous nous cherchons par plusieurs moyens. Nous pensons que l'habillement va nous satisfaire. On sera bien, mais c'est sans fin. Parce que les couturiers ne s'arrêteront pas de coudre. Hein. Ils vont sortir une vague, une mode. Cette année, ça ne va pas s'arrêter là. L'année prochaine, il y aura encore une mode. Donc, obligé encore de t'approvisionner. Les fabricants d'automobiles, ils ne vont pas s'arrêter. On pense trouver le bonheur dans la plus belle voiture, mais dans 2 ans, elle sera une vieille voiture. Il faut encore acheter. On pense trouver le bonheur en se mariant, mais qu'est-ce que nous constatons? Un grand pourcentage de divorces. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas le bonheur. Ces choses-là peuvent nous donner des joies, mais ce n'est pas le bonheur total. On pense trouver le bonheur dans la religion. Il y en a qui pensent qu'en servant Dieu, en leur manière, c'est là qu'ils ont le bonheur. Et c'est ce qu'on appelle la religion. Une liste de choses que tu vas faire. Et tu vas à la fin, quand tu as fait cela, te satisfaire en disant, j'ai bien fait, Dieu est avec moi. C'est faux. Le bonheur, l'homme ne peut pas l'obtenir. Même si tu te dis chrétien et que tu te réfugies sur une liste des choses à faire, en disant, quand j'ai fait cette liste-là, je suis bien, maintenant j'ai le bonheur, tu te trompes. Et Dieu te le montrera. Saul c'était un grand religieux. Il pensait faire ce qu'il était bien. Éliminer les mauvais, éliminer les faux juifs. Et ces faux juifs, c'était les chrétiens. Il disait, quand je fais tout ça, Dieu est content. Or, il combattait Dieu en faisant tout cela. Peut-être ce que toi, tu penses faire pour plaire à Dieu, en réalité, tu es en train de le combattre. Parce que tu fais les choses, parce que toi, tu as décidé, non pas parce que la Bible a dit, non pas parce qu'il est écrit cela dans la Bible, non pas parce que le Saint-Esprit t'a dirigé, mais parce que tu as décidé. Saul cherchait. Hein? Il croyait qu'en faisant tout ce qu'il faisait, forcément, il devenait de plus en plus un grand pharisien, un grand dans sa religion. Mais Dieu dit, mais pourquoi tu as cherché longtemps comme ça? Pourquoi tu es en train de me résister? Les chrétiens que tu combats, je suis en eux. Tu m'aurais trouvé depuis longtemps. Si tu m'avais laissé, moi, te trouver. Nous cherchons, mais le bonheur, il est juste à côté. Juste à côté. Marie, Marthe plutôt, cherchait à préparer ceci, à cuisiner cela. Mais Jésus lui dit, mais Marthe, pourquoi tu t'inquiètes? Mais je suis déjà chez toi. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Moi, viens saisir ce que j'ai pour toi. Ce n'est pas que Jésus soit contre qu'on lui prépare des choses à manger. Mais Jésus ne comprenait pas comment Marthe ne voyait pas qui était là. Comment Marthe ne voyait pas qui était Jésus? Jésus dit une chose. La reine de Séba a fait des milliers de kilomètres d'Éthiopie jusqu'en Israël pour aller voir qui? Salomon. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train. Donc c'était à dos de chameau, avec des chevaux, des milliers de kilomètres, avec des risques de rencontrer des bandits en chemin, pour aller écouter quoi? La sagesse qu'il y avait dans Salomon. Et Jésus dit dans la parole, il dit, là, il y a plus que Salomon. Lui, il est plus que Salomon. Maintenant, tu as plus que Salomon chez toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer ton temps à la cuisine? Non, tu vas passer ton temps à saisir. Parce que tu n'auras pas toujours cette occasion-là. Marthe n'avait pas compris. Beaucoup d'entre nous cherchent. Mais il y a toujours un cœur insatisfait. Si le cœur est insatisfait, c'est parce que nous n'avons pas Jésus à 100%. Deuxième possibilité, nous n'avons pas du tout Jésus. Et troisième possibilité, nous avons Jésus, mais on nous a trompés par quelqu'un pour chercher d'autres moyens de bonheur. Et ce quelqu'un-là, c'est le diable, qui nous a fait croire que lorsqu'on a le succès, c'est là qu'on est un bon chrétien. Non, le bonheur se trouve dans Jésus-Christ. Nous clôturons avec ce texte de Jean 3. Nous clôturons en parlant des textes à lire. Jean 3. Un autre homme cherchait aussi. Vous savez, les religieux de l'époque n'avaient aucune certitude de vie éternelle. Ils savaient plus ou moins que quand tu es correct, quand tu essaies de ne pas, quand tu respectes les commandements de Dieu, ils savaient plus ou moins que Dieu t'agréait. Mais ils n'avaient pas une certitude réelle par rapport à l'éternité, comment ça va se passer, où ils vont la passer. Ils n'avaient pas la certitude. Ils avaient beau lire les Écritures, ils n'avaient pas une vraie certitude. Et un homme, sentant que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, il s'est dit, peut-être que Jésus a la réponse à mon problème. Et cet homme, c'est un docteur de la loi, un docteur des Écritures. Chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. » Verset 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Nicodème, docteur de la loi, un grand religieux, mais dans l'insatisfaction. Quelle insatisfaction ? C'est qu'il n'a pas la certitude, en lisant les Écritures, de sur son éternité. Il ne sait pas s'il entrera vraiment dans le royaume de Dieu. Parce qu'on a beau être correct, entre guillemets, vis-à-vis des humains, nous savons en nous-mêmes qu'on n'est pas correct vis-à-vis de Dieu. On le sait parce que quand on fait des bêtises, nous sommes nous présents. Les autres ne sont pas présents. Quand on a des mauvaises pensées, nous sommes présents. Et il avait beau être docteur des Écritures, docteur de la loi, il savait qu'il n'était pas forcément agréable à Dieu à 100%. Alors il y a comme une incertitude. Je suis considéré par les humains, mais est-ce que Dieu me considère? Et il vient voir Jésus. Il dit, « Jésus, je crois que tu es de Dieu parce que tu fais des miracles extraordinaires. » Il n'avait pas posé la question. Jésus a déjà lu la question dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur a déjà lu ta question dans ton cœur. Le Seigneur sait que tu cherches. Et il a prévu de te dire aujourd'hui la solution à ce que tu cherches. Nicodème n'a pas posé la question. Comment ferai-je pour être sûr d'être dans le royaume? Jésus a lu la question. Tu ne t'es pas exprimé, mais Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Et Jésus l'attaque directement. Jésus dit, Nicodème, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Ah! La réponse est enfin là. Mais lui ne s'attendait pas à cette réponse. Lui pensait qu'on allait lui donner une liste des choses à faire. Comme, vous savez, quand on est au service militaire, il y a ce qu'on appelle le parcours du combattant. Eh bien, comme on te dit, bon, tu vas faire ce parcours-là. Après 3 ans d'études, tu auras tel diplôme. Ça y est, là, c'est que tu es qualifié. Il s'attend à ce qu'on lui donne une série de choses à faire, une série d'écrits, de passages à lire. La réponse tombe. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème dit, mais ça veut dire quoi ça? Pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Mais moi, je vais faire comment? Je ne peux pas redevenir enfant. Jésus dit, non, ça tu es en train de parler de la naissance physique. Moi, je ne parle pas de ça. Ce qui est physique est physique. Ce qui est esprit est esprit. La réponse que tu cherches, ce n'est pas la réponse au physique. C'est la réponse en ce qui concerne l'éternité. en ce qui concerne le spirituel. La suite, le vrai bonheur, le vrai salut, c'est que Dieu soit avec toi. Et Jésus lui dit, pour cela, il faut que tu naisses encore. Et Nicodème dit, je ne comprends pas. Jésus lui dit, pour que tu naisses, Dieu a donné un cadeau. Vous savez, tu peux tout oublier dans la parole de Dieu. N'oublie jamais Jean 3,16. Jésus lui dit, pour que tu naisses, Dieu a trouvé la solution. Ce n'est pas toi qui vas résoudre le problème de tes mauvaises pensées. Ce n'est pas une lecture assidue qui va résoudre ces problèmes-là. C'est le Fils de Dieu. Dieu a donné son propre Fils. Celui qui croit en lui va recevoir la nouvelle naissance. Va devenir une nouvelle personne. Dieu va entrer en lui. Il va vivre la vie de Dieu. C'est une vie qui apporte l'apaisement et la satisfaction totale. Bien-aimé, si tu n'as pas l'apaisement total, première possibilité, tu ne connais pas encore vraiment Jésus. Deuxième possibilité, c'est que tu le connais peut-être, mais pas réellement à 100%. La première possibilité étant que tu ne le connais pas du tout. Et la troisième possibilité, tu connais Jésus, mais quelqu'un d'autre t'a trompé sur le moyen de vivre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est un cadeau que Dieu nous a fait. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus dit à Nicodème, il n'y a pas d'autre solution. C'est moi le cadeau. Dieu a tant aimé les humains qu'il m'a donné afin que tout homme qui vient à moi, tout homme qui croit en moi, reçoive la vie et naisse de nouveau. Il va garder la même couleur, les mêmes cheveux. Peut-être même il va devenir chauve. Mais il sera né de nouveau. Il expérimentera l'apaisement, le repos et la véritable satisfaction. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre solution. Nicodème était étonné. Je crois qu'il a dû se dire, ce n'est que ça. Oui, ce n'est que ça. Recevoir le cadeau de Dieu, Jésus son Fils. Bien-aimé, nous cherchons. Les gens cherchent. Mais Jésus est juste à côté. Quand Nicodème vient voir Jésus, vous pensez-vous qu'il s'attendait à une telle réponse simple? Non. Qui est en même temps compliquée pour lui. Mais elle est simple parce que Jésus dit la solution, c'est moi, le cadeau que Dieu a donné. Nicodème aurait été satisfait qu'on lui dise, il y a 3 ans d'études à faire avec moi. Quand tu feras les 3 ans d'études, tu aurais accédé à un stade qu'on appelle le stade d'éternité. Elle dira, ah, c'est vrai, je m'inscris dans l'école de Jésus-Christ. On lui dit, non, Nicodème, aujourd'hui même, les choses peuvent changer pour toi si tu crois au Fils de Dieu. Bien-aimé, quelle est cette école où tu reçois le diplôme le premier jour? Bien-aimé, avec Jésus, tu reçois le diplôme quand tu t'inscris. Tu viens t'inscrire, bon, l'inscription est finie, monsieur, le diplôme. Oh, mais comment? Mais oui, parce que Jésus a étudié à ta place. Alléluia. Jésus-Christ a souffert à ta place. Et donc, dès que tu l'as rencontré, tu as reçu la solution. La vie est changée. Et tu n'as plus faim. Jésus a dit aux Juifs, « Moi, je suis le pain de vie. Si quelqu'un me mange, il n'aura plus faim. » Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première bouchée, c'est fini. Puisque si quelqu'un le mange, il n'a plus faim. Donc, dès que tu as pris la première bouchée, tu n'ajoutes plus puisque tu n'as plus faim. Il dit, si quelqu'un boit de mon eau, il n'aura plus soif. Bien-aimé, à chaque fois que nous nous inquiétons, à chaque fois que nous cherchons, par nos propres raisonnements, nous sommes en train de souffrir pour rien. Le bonheur est à côté. Marthe cherchait comment faire pour atteindre Jésus, mais Jésus était déjà là. Paul cherchait comment satisfaire Dieu. Mais les chrétiens qui lui tenaient prisonnier, ils avaient les moyens que lui cherchait. Mais lui, il allait chercher jusqu'à Damas. Comment satisfaire Dieu alors que Jésus était là, dans le cœur d'un de ses prisonniers? J'ai été au Maroc, j'ai vu des gens qui ont quitté l'Afrique noire pour venir en Europe. C'est là que Dieu m'a inspiré ces textes que je suis en train de vous donner, bien-aimés. Je les ai vus. Ils cherchent le bonheur en Europe. Et il y en a qui prennent le risque de prendre des embarcations. Des embarcations parfois trouées. Mais ils se disent peut-être que c'est notre dernière chance. Je leur ai dit, ce que vous cherchez est à côté de vous. Et les preuves sont là dans la Bible. Nous cherchons Dieu, mais Dieu, on ne le trouve pas. C'est Dieu qui vient à nous. Et il est déjà venu par son Fils Jésus. Et Jésus nous a recommandé sa parole, la Bible. Ce que tu cherches se trouve dans cette parole-là. Pourquoi nous ne trouvons pas Dieu? Parce que nous pensons le trouver selon nos goûts. Nicodème croyait qu'on allait lui donner un stage à faire. On lui a dit non, il faut naître de nouveau. Ce n'est pas au goût des hommes, c'est le cadeau de Dieu. Marthe pensait qu'il fallait faire beaucoup de cuisine pour atteindre Dieu. Dieu lui a dit non, moi-même je suis venu chez toi. Vous n'avez pas réalisé qu'il y a une constante. C'est que c'est Jésus qui se présente. Jésus est venu chez Marthe. Jésus a dit à Zachée, je viens chez toi. Jésus n'a pas attendu que Nicodème lui pose la question. Il vient à la question, à la réponse déjà. Dieu n'attendra même pas que tu parles. Il vient déjà répondre. Et quand il vient répondre, puisqu'on est parfois têtu, il peut créer des questions en toi. Mais ces questions que tu as dans ton cœur, c'est déjà la réponse de Dieu. Qui est en train de te dire, tu n'es pas satisfait avec ce que tu as. Tu n'es pas satisfait avec ta taille. Tu n'es pas satisfait avec ta force physique. Malgré le fait que tout le monde te félicite. Toi, en toi, tu n'es pas satisfait. Ce que l'homme cherche, c'est le bonheur. Mais comment? Il ne le trouve pas parce qu'il y a le péché dans le monde. Le bonheur qu'il y a ici sur terre est éphémère. Ça s'échappe comme de la fumée. Aujourd'hui, où est Mohamed Ali? Où est Mike Tyson? Il suffit de regarder le match de football pour comprendre comment le bonheur est éphémère. En quart de finale, ton équipe va gagner 3-0. Tu ne dors pas la nuit, tu sautes de joie. Et en demi-finale, comme dernièrement j'ai vu un peu le match Brésil-France, où la France, le Brésil perdait, et je voyais un supporter brésilien en train de pleurer. Mais ce supporter-là, combien de fois il s'est réjoui? À plusieurs reprises quand son équipe gagnait. Mais le bonheur est éphémère. Là, son équipe perdait. L'argent. Mais l'argent, c'est sans fin. Tu vas toujours en vouloir. Et ça passe. La beauté. Vérifiez comment est devenue Brigitte Bardot. Bien-aimée, tout cela passe. Quand on interview des gens de 100 ans, de 80 ans, souvent dans leur maison, il y a leurs photos quand ils avaient 18 ans, 15 ans. Et ça suffit de regarder ça, de comprendre. Tout cela passe. C'est pourquoi on n'est pas satisfait. Tout ce qu'on pourrait avoir, on n'en sera jamais satisfait. Le succès, ça tourne. Ça tourne. Il y a des gens qui ont été applaudis, mais ils ont été aussi hués. Le vrai bonheur se trouve en Dieu. Et Dieu l'a garanti en donnant son fils Jésus-Christ. Chercher Dieu par ses propres moyens est vain. Tu ne le trouveras jamais. Parce que Dieu te dépasse. Il connaît mieux que toi ce dont tu as besoin. C'est le moment de t'humilier, de venir à Dieu. Dieu t'a créé. Il connaît son mode d'emploi parce que c'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas le hasard qui t'a créé. Parce que si c'était le hasard qui nous avait créé, dans ce cas, prends un caillou, lance dans l'air, dans les airs, en retombant que le hasard fasse que ça devienne de l'or. Tu retrouveras toujours ton caillou, mon cher, ma chère. Parce que tout ça est faux. Il y a un créateur derrière toi, derrière moi. Et ce créateur-là connaît ton mode d'emploi. Et il sait que ton problème, c'est que tu naisses de nouveau. Il faut que tu viennes à Jésus pour devenir une nouvelle créature. C'est ainsi que ta vie changera. Tu auras des pensées du ciel. Il est écrit, celui qui est en Christ ne pêche point. Il a en lui une seconde nature, la nature de Dieu, qui lui donne la supériorité sur le mal. Mais quelqu'un me dira, mais comment moi je continue toujours à avoir des pensées du mal? Oui, la vieille nature est là. Tu la réveilles parce que tu n'acceptes pas le cadeau de Dieu. Tant que tu cherches à travailler par tes propres moyens, tes propres forces, ça veut dire que tu refuses le cadeau de Dieu. Et donc les mauvaises pensées viendront toujours là. Tant que tu n'as pas pris gratuitement le cadeau de Dieu, tant que tu n'as pas accepté cela gratuitement, tu cherches toujours à mériter, tu cherches toujours à te battre par tes propres forces, tu auras l'impression que c'est vain. Et c'est normal parce que tu ne peux pas trouver là le bonheur. Tu ne dois qu'accepter le cadeau de Dieu. Il est écrit dans Romains 8, 2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie leur a donné la supériorité sur la loi du péché et de la mort. C'est une loi. Quand nous sommes dans un avion, tu es passager, est-ce que tu tombes? Tu ne tombes pas. Pourquoi tu ne tombes pas? Parce que tu es dans un avion et cet avion a une loi. C'est la loi de la résistance de l'air qui fait, qui lui donne la supériorité sur le poids. Et malgré le poids, l'avion reste en l'air. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Il va mettre une loi qui te donne la supériorité sur les choses de la terre. Tant que tu t'oublieras, cette loi-là sera vainqueur en toi du péché et du mal environnant. Dès que tu vas chercher à devenir conscient de tes exploits, c'est là que tes problèmes vont commencer. Lorsqu'on respire, qui est conscient? Le meilleur moment quand on respire, c'est quand on est inconscient. Quand vous voyez les coureurs commencer à faire ça, c'est que ça ne va pas. À l'hôpital, on amène quelqu'un qui a du mal à respirer. On sent qu'il a du mal à respirer. Mais quand il respire, on ne réalise pas. Je vous regarde là, je ne sens pas que vous respirez. Parce que vous respirez bien, vous êtes à l'aise. Mais que quelqu'un commence à s'étouffer, on s'en rendra compte tout de suite. Alors à chaque fois que nous voulons nous rendre compte que nous sommes des bons chrétiens, notre respiration va devenir difficile. Vivons la vie chrétienne inconsciemment. Parce que c'est une loi. Quand nous tombons, qui a décidé je tombe? Non, mais saute, tu vas tomber. C'est une loi. Et la vie chrétienne est une loi que Dieu place en nous. Dès que tu cherches à prendre conscience, est-ce que je suis bon chrétien? Ta faiblesse commence là. Et tu veux prendre conscience? Je respire. Et ça devient compliqué. Alors qu'avant ça, tu respirais, hein? Mais quand tu veux en prendre conscience, c'est là que tu te rends compte que ton nez a un problème. Mais avant, tu ne te rendais pas compte. Parce que tu étais inconscient. La vraie vie chrétienne se vit naturellement. Sans chercher à faire des bilans, dire « Hier, j'ai fait tant d'exploits. Aujourd'hui, non, ça se vit naturellement. » Sans chercher à faire des calculs. « Est-ce que je suis à tel niveau ?» Non. Nous sommes tous des enfants entre les mains du Seigneur. Il y en a qui disent « Ah, oh, votre église, ça fait combien d'années ?» 5 ans. Vous êtes combien? Tout ça pour évaluer l'efficacité de Dieu, évaluer comment Dieu a travaillé avec eux. Oh, bien-aimé, c'est là que tes difficultés commencent. Quand Jésus a fait descendre la puissance le jour de Pentecôte, est-ce que c'est les apôtres qui avaient décidé? C'est Jésus lui-même qui avait dit, je ferai descendre la puissance. Quand un cœur change, bien-aimé, est-ce que toi tu peux décider ça? Il y a quelqu'un qui venait à l'église là, je la regardais à distance. Bon, je me disais, elle vient régulièrement, elle écoute la parole, mais bon, je ne sais pas particulièrement si elle aime. Elle a demandé rendez-vous avec moi. Je veux aller plus loin avec Dieu. Moi, je dis, ah bon, donc, vous savez qu'il y a le baptême, il y a tout ceci. Oui, j'ai appris. Bon, je vais vous poser les questions d'usage. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Elle dit, non seulement je crois, je suis sûr. Ma bien-aimée, moi, quand j'entends des choses comme ça, j'ai envie de sauter, toucher le plafond. Elle m'a dit, je suis sûr. Donc, j'ai l'impression qu'elle a plus de foi que moi. Il dit, vous croyez? Elle dit, non, je ne crois pas. Je suis sûr que Jésus est le Fils de Dieu. En écoutant la parole, je suis tombée amoureuse de Jésus. J'ai dit, Jésus est bon. Il y a des gens qui viennent tout simplement. Il a commencé à agir dans ma vie avant même que je le connaisse. J'étais drogué. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et aujourd'hui, je comprends que c'est Jésus qui a fait tout ça. Et je veux être baptisé. C'est Jésus seul qui peut toucher un cœur. C'est Jésus seul qui a la solution. Elle m'a dit, si tu vois ma photo quand j'ai fumé, et tu vois ma photo aujourd'hui, tu ne vas pas me reconnaître. Moi-même, je ne me suis pas reconnu. Quand je me suis regardé, Jésus m'a transformé. Jésus l'a trouvé et l'a transformé. Alors même quand on est devenu chrétien, ne cherchons pas des choses compliquées. Acceptons le cadeau de Dieu. C'est Jésus. À chaque fois que nous devenons compliqués, nous nous mettons nos obstacles nous-mêmes. Ce dont tu as besoin, c'est de Jésus. Tu penses avoir besoin d'argent. Tu penses avoir besoin de puissance. Tu penses avoir besoin de succès. Tu penses avoir besoin de rapidité. Mais en réalité, ce dont tu as besoin, c'est de Jésus. Et Jésus dit, pourquoi chercher loin ce qui est près? Et l'apôtre explique ça dans Actes des Apôtres au chapitre 17. Il a dit, les peuples ont cherché Dieu à tâtonnant. Mais ce que les peuples ont cherché à tâtonnant, Dieu l'a donné clairement. Son fils Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. De sorte que tout ce que les gens cherchaient, l'éternité, le bonheur, la victoire sur le péché, Dieu l'a exprimé physiquement par son fils Jésus. Il est mort et ressuscité. Ce que tu cherches, mon ami, ce n'est pas ta guérison en réalité. Tu cherches le Seigneur. Mais tu ne le sais pas. Le diable t'a peut-être trompé. Et tu insistes sur d'autres choses. Viens à Jésus. Je parle pour toi. Je parle pour moi. Ce dont nous avons besoin, c'est Jésus. Il est notre solution. Il a dit dans Jean 19, 30, tout est accompli. Nous avons beaucoup de projets et parfois ces projets viennent de Dieu. Mais le cadeau, c'est que ces projets ont été déjà accomplis. Demeurons dans le Seigneur Jésus et nous vivrons ces projets-là. Demeurons en lui et nous vivrons cela. Soyons comme Marie, soyons comme Zachée, soyons comme le gadaréniens qui a été libéré et qui s'est accroché à Jésus. Ne soyons pas comme tous ces docteurs de la loi qui ont voulu des preuves à tout moment et quand on leur en donnait, ils en demandaient toujours. Soyons simples, car Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui te donnera la guérison. C'est Jésus qui te donnera l'église qu'il faut. C'est Jésus qui te donnera de bien chanter. C'est Jésus qui te donnera de faire ce que tu veux faire pour lui. C'est Jésus qui le fera en toi. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Et si tu ne crois pas encore en Jésus, je te dis, ce dont tu as besoin, c'est Jésus toujours. Parce que en toi, il y a un principe qu'on appelle le mal, le péché qui est là. Tu as beau nier devant les hommes, toi-même tu le sais. Et le Seigneur Jésus dit dans Jean 8, « Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans votre péché. Le mal qui est en toi te détruira sur terre et t'amènera en enfer. » Et Jésus est ta seule solution. Parce que Jésus a vaincu le mal, il a vaincu le péché et il est ressuscité le troisième jour, vainqueur de la mort. Je nous invite à recevoir Jésus pour ceux qui ne l'ont jamais reçu dans leur vie. Si tu es au milieu de nous et que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, ou tu penses ne l'avoir réellement pas reçu, je t'invite à te lever et à passer devant. Nous allons prier pour que tu reçoives Jésus et que ta vie soit transformée. Jésus a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Il a vécu sans péché. Il a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Il a aimé les gens. Il a sauvé les veuves. A ressuscité les morts, il a marché sur les eaux. Aujourd'hui, il t'invite. La voix du Seigneur t'appelle. Il veut te sauver comme il a sauvé Zachée. Il n'y a pas de honte à voir. Je lance un dernier appel. Si quelqu'un veut recevoir Jésus dans sa vie, tu te lèves d'où tu es et tu avances devant là. Nous allons prier afin que ta vie change et soit transformé intégralement. Tu commenceras une nouvelle vie. Il n'y a pas de honte à voir. Le Seigneur t'appelle.